Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Duo si vous nous rejoignez. En ce troisième jeudi de décembre, vous avez rendez-vous avec ce générique, vous le connaissez. L'indicatif indique en effet que vous avez rendez-vous avec la mémoire et l'histoire ouvrière locale. C'est l'émission consacrée au GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Une dernière pour cette année 2020, en compagnie d'Alban qui est avec nous, Alban Graziotin, historien, membre actif du GREMOS. Alban, bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes en communication et en ligne avec Valentine Bouc qui est avec nous au bout du fil. Valentine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Valentine, autrice de la bande dessinée Corps en grève que tu as co-réalisée avec la dessinatrice Amandine Vadré-Puntos, une bande dessinée qui vient de paraître cette année aux éditions Steinkiss. Simplement resituer un petit peu les choses, Valentine et Alban, nous réalisons cette émission dans le cadre de Trace, la Biennale Trace, qui a commencé le 7 octobre dernier, qui devait se boucler en présentiel et physiquement le 7 décembre, mais qui se prolonge quelque peu, puisque de par les situations ou la situation sanitaire que l'on connaît, cette biennale n'a pu se tenir partout en région Auvergne physique, en tout cas de façon physique, et elle a été, conduite, reconduite, repensée sous forme numérique, digital, avec une radio, web radio, Trace, qui s'est mise en place pour prendre le relais et poursuivre ce travail de conférences, films, débats, alors pas véritablement, mais en tout cas débats, discussions et réflexions, questionnements autour toujours de ces questions qui animent cette biennale régionale Trace, l'histoire, les mémoires et l'actualité des migrations. Dans ce cadre-là, devait se tenir à Saint-Étienne, la Loire fait partie d'une programmation chargée dans le cadre de Trace, une exposition rencontre qui devait se tenir à la librairie L'une et l'autre, rencontre expo qui devait avoir lieu le 13 novembre dernier, en présence bien entendu du GREMOS, en présence de Valentine pour ce rendez-vous qui était proposé donc le 13 novembre dernier à la librairie L'une et l'autre. Ce rendez-vous a bien sûr été annulé de par la situation de confinement que l'on connaît, mais nous vous le proposons voilà en version radio pour cette émission mensuelle du GREMOS, dernier rendez-vous de cette année 2020. Voilà, ce sera tout le contenu de cette émission GREMOS du jour avec Alban et Valentine pour nous parler de Corps en grève, cette BD qui aborde la situation de grévistes durant l'année 1973. Je cède de suite la parole à Alban pour entrer dans le vif du sujet finalement.
Je te remercie Lionel. Donc oui, une émission GREMOS un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser au 9e art et on a fait intervenir une personne extérieure au bassin qui a écrit quelque chose extérieur au bassin stéphanois et c'est aussi dans l'optique du GREMOS de s'ouvrir aux autres localités et de pouvoir aussi comparer, mettre en parallèle un peu les histoires en différentes localités. Donc on avait décidé en commun accord avec Antoine de la librairie L'une et l'autre de faire venir Valentine Bouc pour discuter de sa BD Corps en grève, donc comme Lionel l'a dit réalisée par Valentine Bouc au niveau du scénario et par Amandine Vadre-Puntos pour les dessins. Cette BD est parue cette année aux éditions Steinkiss à Paris, donc 2020, et vous pouvez la trouver dans toutes les bonnes librairies, notamment à Saint-Étienne, à la librairie L'une et l'autre. Donc pour rentrer dans le vif du sujet et pas monopoliser la parole, on va directement demander un peu à Valentine de se présenter, de nous présenter aussi sa collaboratrice qui est absente aujourd'hui, et puis après on commencera un petit peu à décortiquer son travail, voir comment elle a envisagé ce travail, les thèmes, l'origine, les sources, etc. Donc Valentine, si tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît.
Ok. Alors du coup, donc moi c'est Valentine, je suis scénariste de bande dessinée. Je suis aussi donc journaliste de formation et j'ai poursuivi des études en sciences politiques à la fac par la suite. Amandine Vadre-Puntos est donc réalisatrice sur le dessin de la bande dessinée Corps en grève. Elle a étudié à l'école de dessin Émile Cole à Lyon. Nous, on s'est rencontrés avec Amandine dans le cadre en fait d'une association lyonnaise qui s'appelle l'Épicerie séquentielle et qui regroupe des auteurs de bande dessinée de la région. Et on publie chaque mois une histoire documentaire en 10 planches sur divers sujets. Et c'est comme ça qu'on a fait donc connaissance toutes les deux et qu'on est parti sur, euh, sur ce projet de bande dessinée.
D'accord, je te remercie. Donc, pour approfondir un petit peu justement autour de ce sujet, a priori, c'est une histoire aussi familiale. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, donc les racines de cette histoire qui t'ont donné envie de la mettre en scénario et de la faire dessiner aussi dans le cadre de tes activités?
Bien sûr. En fait, l'origine du projet, donc c'est une histoire qui est familiale pour moi. Ma grand-tante est une des protagonistes de l'histoire de Corps en grève et de cette histoire qui retrace la lutte de travailleurs immigrés sur l'année 73 pour obtenir un titre de séjour. Donc ma grand-tante faisait partie du comité de soutien de cette lutte. Et beaucoup des protagonistes sont des personnes avec qui j'ai grandi, qui ont fait un peu partie de mon enfance. Et en fait, j'ai voulu approfondir le sujet plus tard, là, quand je suis devenue adulte et que j'ai fait des études de journalisme, je me suis intéressée du coup un petit peu au documentaire et je me suis dit que c'était une histoire que je connaissais un peu comme une histoire qu'on raconte. Et avec lesquels on rêve un petit peu en tant qu'enfant, on a beaucoup de fantasmes. Et du coup, moi, je suis partie vraiment sur une enquête journalistique comme j'ai appris à le faire. Et voilà, et en fait, c'est comme ça qu'après, j'ai évidemment fait beaucoup d'entretiens. On reviendra peut-être là-dessus, comment j'ai travaillé. Et voilà, ça part évidemment, en fait, d'une histoire que j'ai appris depuis que j'étais enfant et qui avait vraiment une importance... Pour ma grand-tante.
D'accord, très bien. Donc c'est vraiment parti de discussions comme ça dans ton enfance et jusqu'à nos jours, très récemment en tout cas, des discussions récurrentes avec ta grand-tante sur ce sujet. Comment elle a envisagé justement quand tu as proposé d'en faire un livre ou du moins d'en faire un scénario pour une bande dessinée?
En fait, je pense que elle n'est pas la seule. Hein. Elle était assez, je pense, touchée et émue en fait que ce qu'elle appelle les jeunes... peuvent se replonger sur une histoire qui a plus de 40 ans. Et c'est des choses que j'ai entendues aussi d'autres protagonistes de l'histoire que j'ai rencontrées. Ils ont été touchés vraiment par ça et se dire, en fait, ça peut encore intéresser aujourd'hui. Et c'est ça qui est revenu la plupart du temps. À la fois se dire, je pense que ça a aussi du sens aujourd'hui. Moi, c'est toujours ce que je leur présentais comme ça. Et à ma grand-tante, c'est pareil. Voilà, de dire qu'en fait, les luttes passées, elles ont des échos sur le présent. Et voilà, c'était un travail comme ça, un petit peu d'aller rechercher dans sa mémoire pour les personnes, des fois, qui avaient un peu oublié. Mais en même temps, c'était vraiment très actuel. Moi, j'ai toujours voulu parler aussi du présent à travers cette BD.
D'accord, très bien. Donc, on reviendra peut-être un peu plus précisément sur le contexte de l'époque dans le fil de l'émission. Pour continuer, justement, avant peut-être de représenter un petit peu la trame de l'histoire, si tu veux nous en faire un petit résumé... Un choix aussi de ta part, le choix du titre. Les titres sont toujours importants. Donc, d'où t'es venue cette idée de Corps en grève?
C'était, oui, pareil, c'est toujours compliqué hein, de trouver quelque chose qui marque. En fait, je pense que l'idée de faire résonner la question du corps me paraissait importante dans le sens où c'est une grève de la faim que les travailleurs... ont décidé d'entreprendre, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, c'était un moyen d'action qui se faisait beaucoup. Et le fait qu'on puisse, dans le titre, au moins déjà avoir la sensation que c'était pas une grève tout à fait normale, ou la grève qu'on connaît, traditionnelle, plus comme les piquets de grève, les grèves classiques. Et je voulais que ça apparaisse dans le titre. C'est pour ça qu'il y a la question du corps qui me paraissait importante.
Très bien, oui. D'autant plus que, et là, je ne sais pas du tout si on en reparlera aussi, si tu as été amené à lire des travaux peut-être un peu plus scientifiques sur ces questions-là, mais pour faire écho à ce que tu dis, c'est vrai que ces dernières années, dans les sciences sociales et notamment aussi en histoire, la question du corps devient de plus en plus centrale. Et moi, j'ai été frappé tout de suite par le titre de ton ouvrage, Corps en grève, parce que c'est c'est exactement ce qui se passe. Hein. Là, c'est pas qu'une grève classique, comme tu le dis, c'est aussi des corps qui se mettent en grève, donc qui ne se nourrissent plus pendant un certain nombre de jours, voire de semaines. Et ça fait vraiment écho à l'actualité dans les sciences sociales et humaines, cette question des corps, du corps en général. Et moi, c'est vrai que ça m'a tout de suite attiré l'œil, en fait, quand j'ai appris l'existence de cet ouvrage. Oui, pour peut-être en revenir, je ne sais pas, ce serait peut-être intéressant de revenir un petit peu sur le contexte, et ça nous permettra aussi de parler de tes sources, et moi, ça me permettra aussi de faire peut-être un contrepoint. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le point de départ de l'histoire que tu racontes, et on verra aussi un petit peu la mise en récit que tu as proposée.
Donc, en fait, l'histoire, elle démarre à l'hiver 73, dans un des derniers bidonvilles de la région lyonnaise, qui était donc à Fézin, qui est au sud de Lyon, une région très industrielle toujours actuellement. Et donc un des derniers bidonvilles devait être fermé. Et c'est donc à partir de cette fermeture, enfin c'est l'annonce de la fermeture de ce bidonville, que des militants et tout un tas de personnes se sont rapprochés des habitants du bidonville, qui étaient en majorité des travailleurs tunisiens. Et du coup, le départ est quand même vraiment sur la question du logement et du mal logement, et le fait que beaucoup de travailleurs à l'époque vivaient donc dans des bidonvilles, et de cette question-là de où est-ce qu'on va loger, et on n'a pas accès au foyer Sonacotra qui était à l'époque pour les personnes en situation régulière qui pouvaient accéder à ces foyers de travailleurs. Comment toutes ces personnes sans titre de séjour, sans papier, entre guillemets, allaient être logées. Et de cette question-là, la grève arrive sur la question de la régularisation. On part d'une situation du logement pour arriver bien plus largement sur la question de la régularité, le fait de travailler en France, de pouvoir s'installer et rester en France. Et il y a la situation de la circulaire Marcelin Fontanet, mais peut-être je vais te laisser Alban expliquer un petit peu de quoi il s'agit, mais c'était un contexte aussi très particulier sur la fin, on va dire, de l'immigration de travail et la régularisation a posteriori.
Oui, ça part vraiment de là. Cette bande dessinée démarre le 26 janvier 1973 et on est dans ce bidonville, chemin Thomas, on est à Fézin, 14 km de Lyon, et le point de départ est vraiment celui-ci, avec la volonté des autorités de raser le camp et donc la volonté d'expulser les clandestins sans papier. Et effectivement, c'est cette question de l'hébergement et du logement, Valentine, comme tu le précises, qui se pose, parce que ces personnes qui peuvent être sans logement, en tout cas qui sont sans papier, donc clandestins en irrégularité, ne peuvent accéder aux foyers en place proposés aux régularisés, finalement, que sont les foyers Sonacotra que l'on connaît. Il y en a dans la région lyonnaise et tu les cites à plusieurs reprises dans ton ouvrage, Vaux-en-Velin, Saint-Fons, les foyers de travailleurs aussi comme Vaise, mais qui ne sont pas toujours accessibles dans un premier temps pour ces populations qui ne sont pas encore régularisées et toujours sans papier.
Oui.
Et d'autant plus que, et c'est ce qui frappe aussi à la lecture de la BD, c'est que comme beaucoup d'ouvriers immigrés à l'époque, ils ont quand même un contrat de travail, donc ils sont en porte-à-faux parce qu'ils ont un contrat de travail, mais il n'y a pas la régularisation qui suit. Donc ce qui est intéressant aussi dans la BD, et c'est ce que tu mets en avant très rapidement, c'est la place que peuvent prendre les militants à l'époque pour lancer le mouvement, parce qu'on se rend compte que les jeunes Tunisiens qui viennent rencontrer dans ce bidonville, ils sont plutôt un peu réticents, sinon sur la défensive au début, et c'est un certain nombre de militants, donc a priori que tu as pu rencontrer en plus, qui vont vraiment essayer d'impulser le mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Bien sûr. En fait, c'est donc les ce qu'on appelle ce qui se sont appelés les trois Mohamed dans la bande dessinée, c'était vraiment donc leur pseudo de militants à cette époque. Donc c'est des personnes qui sont des très bons amis de ma grand-tante. Donc du coup, ces personnes-là, j'ai pas eu à les retrouver parce que je les connaissais bien. Mais par contre, la particularité, en effet, de ces personnes, c'est qu'elles étaient donc déjà militants depuis leur pays, depuis la Tunisie, sur notamment la question de Bourguiba et donc de la volonté en fait de faire une révolution en Tunisie. Et donc c'est des militants qui se sont déplacés, notamment en Europe, mais qui avaient toujours ce lien très fort avec la Tunisie et qui pensaient en termes révolutionnaire, comme c'était un petit peu l'état d'esprit de l'époque, et de renverser le régime autoritaire de Bourguiba en Tunisie. Donc eux, ils sont déjà totalement habitués et prêts à cette question de revendication. À l'inverse, les jeunes Tunisiens qu'ils rencontrent au début de la bande dessinée dans le bidonville sont là, en fait, notamment pour gagner de l'argent, pour envoyer à leur famille. Enfin, ils sont dans quelque chose de tout à fait précaire aussi. Et évidemment, l'idée de se révolter leur fait peur, notamment parce qu'ils ont tout à fait conscience que ils sont pas spécialement la bienvenue en France que ça. Et que la moindre révolte pourrait en fait les faire rentrer dans leur pays. Or, ils sont là vraiment à la base pour travailler et pour ramener de l'argent à leur famille, rester au pays. Donc il y a vraiment une sorte de, il y a en effet une tension, et il y a aussi un cheminement pour ces travailleurs de se rendre compte que finalement, la lutte c'est peut-être la seule solution pour obtenir un titre de séjour.
Il y a une tension et il y a même des pressions, Valentine, parce qu'on le voit à plusieurs reprises dans la bande dessinée. Il y a le consulat tunisien qui vient physiquement aussi sur le camp ou auprès des travailleurs pour leur mettre la pression et ne les décourager finalement à rejoindre le mouvement.
Clairement, et du coup, évidemment, j'avais pas le temps de tout expliquer, hein, donc du coup, c'est juste évoqué dans la bande dessinée, mais quand le consulat se rend physiquement dans le bidonville, hein, c'est bien ce qui s'est passé, hein, tout ce que je raconte dans la bande dessinée a vraiment existé, donc il s'est, pour montrer l'importance, hein, de pour qu'un consulat se déplace jusque dans le bidonville, on se doute bien de l'intérêt que ça pouvait, que ça pouvait vraiment l'inquiéter. Et en filigrane, il y a vraiment cette question de, en fait, des opposants politiques de Bourguiba. Donc au final, la pression, elle se fait aussi sur les travailleurs immigrés, avec cette question de dire mais ce sont des opposants politiques, ce sont des personnes dangereuses. Et c'était aussi une façon de démobiliser et de faire peur aux travailleurs. Donc il y avait vraiment, il y a quand même dans cette BD, particulièrement parce que je parle de ce qui s'est passé à Lyon, une particularité sur la question de la Tunisie et des enjeux de l'époque pour les Tunisiens.
Exactement. D'ailleurs, c'est cette distance, en fait, qui n'est pas vraiment une distance, parce qu'on se rend compte que même sur le territoire national, des enjeux qui ne sont pas en France se jouent. Et c'est ça qui est intéressant avec cette histoire. On a la croisée de l'histoire des migrations, de l'immigration, l'histoire diplomatique aussi, puisque le consul et le consulat quand même aussi des comptes plus ou moins à rendre avec le gouvernement. Donc on est dans une histoire qui s'interpénètre, où on voit un peu des profils de personnages qui sont à la fois ici et là-bas, pour reprendre un peu le titre d'un livre de Catherine Gauthier sur les travailleurs immigrés dans la Loire, hein, d'ici et de là-bas. C'est là, on le voit vraiment, hein, cette pression qu'ils ont. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, un des protagonistes de ton histoire va avoir des problèmes à la fin des années 70.
Les trois, en fait. Les trois Mohamed, hein, donc les trois personnes, les trois militants tunisiens qui sont venus en France et qui ont participé à la mobilisation, évidemment, à Lyon, vont décider de rentrer en Tunisie pour continuer à mener le combat dans leur pays, puisque c'était l'origine de leurs aspirations. Et ils seront tous les trois emprisonnés comme prisonniers politiques du régime de Bourguiba. Ils vont être enfermés dans un bagne connu de Tunisie, et pendant plusieurs années, ils seront enfermés et mèneront plusieurs grèves de la faim pour obtenir notamment le fait d'être tous rassemblés au même endroit, parce qu'ils étaient un petit peu divisés dans les différentes prisons. Donc voilà, c'est sûr que évidemment que les conséquences d'un engagement politique en France a mené au moins un des trois à perdre son titre de séjour. Donc il y avait évidemment une correspondance quand même entre une action sur place et des conséquences aussi sur la suite des personnages.
Oui, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Finalement, certains, il y a eu ce combat, cette lutte pour obtenir des papiers. Certains l'ont donc obtenu, mais n'ont pas eu de renouvellement automatique de leur titre de séjour et donc ont dû retourner clandestinement au pays par la suite et ont subi ces répressions dont tu parlais à l'instant. Donc finalement, ça revient aussi à la question des témoignages finalement, c'est-à-dire ces trois Mohamed-là sont retournés au pays comme tu le disais, mais tu t'es appuyé du coup sur quel témoignage exactement de ces personnes concernées, parce qu'on sait qu'il y avait les personnes issues de l'immigration, certes, mais les Français, je dirais, solidaires, et notamment, tu l'évoques aussi via les CFI, les comités français immigrés qui existaient à l'époque. Qu'est-ce qui t'a servi de matériau aussi pour assurer ce regard de témoin pour le travail ?
Alors, une de mes recherches sont évidemment basées sur des témoignages, donc à la fois du comité de soutien des trois Mohamed qui sont en partie revenus en France, hein, ils ont été emprisonnés dans les années 80, mais ils sont revenus à Lyon notamment, donc ils sont toujours ici. Donc j'ai pu les rencontrer évidemment directement. J'ai eu un petit peu de difficulté à retrouver les grévistes, donc du coup les travailleurs immigrés qui ont participé à la grève. Parce que voilà, la vie a fait que tout le monde n'est pas resté à Lyon, voilà, donc j'ai dû faire un petit travail pour les retrouver. J'en ai retrouvé un qui était très touché d'ailleurs de ce travail. Et puis après, une grande partie de mon travail s'est aussi basée sur un article de Paul Ariès qui avait écrit dans Homme et Immigration un article sur la grève de la faim de 73 à Lyon. Et qui du coup avait fait aussi des entretiens. Du coup, j'ai aussi eu accès à ses documentations, ces entretiens qu'il avait menés. Après, j'ai aussi travaillé sur des archives. Je suis allée aux archives départementales, aux archives municipales. Voilà. Donc, il y a eu tout un travail aussi dans la presse locale, parce que c'est une grève qui a été assez suivie quand même dans la presse locale, même nationale. Hein, il y a eu des articles dans Le Monde, dans La Croix. Donc ça, je suis allée à la bibliothèque aussi de Lapardieu pour retrouver tous les articles et faire des recoupements sur les témoignages évidemment que j'avais, mais je voulais recouper avec tout un tas d'informations plus factuelles.
Oui, Paul Ariès, on le précise, politologue qui est installé sur Lyon, qu'on a beaucoup connu aussi sous le travail politique mené autour de la décroissance, ça c'est pour la petite parenthèse, et puis du matériau encore militant que tu as aussi collecté, je pense à bon nombre de tracts, voire de photographies aussi, hein, qui sont très largement représentées au sein de l'ouvrage.
Oui, je suis allée. On a notamment eu quelques. Enfin, Paul Ariès avait déjà en fait fait ce travail-là, donc il avait récupéré un certain nombre d'affiches, de tracts. Donc ça, j'ai pu y accéder grâce à sa documentation et aussi au CEDRA. Donc c'est un centre de documentation à Lyon qui retrace toute la mémoire militante. Du coup, ça, j'ai aussi accès à ça en effet pour avoir en main les tracts de l'époque, les comptes rendus. Hein. J'ai retrouvé des comptes rendus à la main, des réunions, tout un tas de choses qui sont aussi émouvantes.
Bah, tu as fait un vrai travail d'historienne, en fait, hein, en recoupant les informations, en croisant les témoignages, en remontant dans les mémoires, etc. Là, tu as fait un véritable travail d'historien, donc on pourra en reparler un petit peu sur la mise en récit, peut-être. On aurait peut-être pu justement revenir un petit peu sur ce contexte global de l'époque, qui est quand même assez bouillonnant, on va dire. On est dans les années 1968, donc pour les historiennes et historiens qui travaillent sur la France du second XXe siècle, ces années 68, c'est en gros les années 1960-1970, durant lesquelles les luttes sociales et notamment les luttes ouvrières vont être de plus en plus nombreuses et les militants d'extrême gauche notamment qui vont retrouver un semblant de vigueur après 68 vont essayer d'occuper l'espace un petit peu et d'aller appuyer les revendications des travailleurs les moins mis en avant par les luttes ouvrières traditionnelles. Et c'est là que la question des travailleurs immigrés ou la question des femmes, par exemple, va exploser, on va dire, puisque dans les années 70, on va avoir tout un tas de grèves de femmes dans les usines, mais aussi des grèves de la faim de travailleurs immigrés. Donc je pense qu'il est intéressant de refaire un petit point là-dessus. Ce qui est en tout cas symptomatique, c'est qu'on est vraiment dans ces années 68, avec tes trois Mohamed, comme tu dis, on a des militants immigrés qui sont conscientisés, qui ont des idées révolutionnaires, qui lisent des ouvrages de Mao, qui lisent La cause du peuple, des maoïstes. Donc on est dans toute cette constellation marxiste révolutionnaire des années 70 qui est très active en France et notamment dans la région lyonnaise. Il y avait peut-être un conflit qui était intéressant sur lequel on aurait pu revenir, c'est le conflit de Peñarroya en 1972, parce qu'un des Mohamed justement a fait partie de ce conflit-là. Le conflit de Peñarroya, c'est donc une usine de plomb dans la région lyonnaise, sur Lyon, qui emploie essentiellement des travailleurs immigrés, et une centaine se mettent en grève pour les conditions de travail. Ils travaillent avec du plomb dans des conditions désastreuses, etc. Et ça va être une grève qui va faire énormément de bruit à l'époque, qui va être reprise par notamment les cahiers de mai, donc des cahiers qui sont tenus par des militants ouvriéristes, on va dire, hein, qui essayent de mettre en avant toutes les luttes ouvrières sous quelque forme que ce soit. Et ce conflit de Peñarroya donc va être un peu aussi un déclencheur, puisque un certain nombre de travailleurs immigrés vont pouvoir rentrer vraiment en contact avec des militants de la CFDT notamment, qui sont aussi très en avant sur certaines questions. Et on les retrouve donc dans ce conflit de 1973 des travailleurs immigrés. Donc c'était l'un des Mohamed, si je ne me trompe pas, qui avait participé à ce conflit, vu Valentine, non ?
Oui, oui, oui. Et c'est une grève qui est importante, hein, d'ailleurs, parce que c'est aussi la reconnaissance du saturnisme comme maladie du travail. Enfin, voilà, donc c'est vraiment, en effet, Peñarroya qui est un peu aussi une lutte exemplaire dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, je fais référence tout au début de la bande dessinée, quand les militants rencontrent pour la première fois les travailleurs tunisiens dans leur bidonville, et ils se présentent un petit peu comme ça, parce qu'au final, ces personnages, donc ces Mohamed, ont en fait fait un véritable travail de traduction, mais bien au-delà, entre l'arabe et le français, pour que les revendications des travailleurs soient vraiment prises en compte. Et il y avait tout ce travail-là de dire que c'est pas au syndicat d'imposer aux travailleurs une méthode, des actions et finalement la grève. Et donc ils étaient déjà un petit peu cette espèce de maillon qui fait le lien en fait, et qui est un peu voilà, qui peut être aussi un petit peu révolutionnaire dans cette manière de laisser les syndicats à leur place et de pas imposer des formes de lutte, par exemple.
Et de laisser la parole aux travailleurs. On va voilà. Peut-être en profiter là pour faire la petite pause.
Oui, juste une question, parce qu'effectivement, c'est évoqué ce travail de traduction qui est assuré par un des protagonistes et qui revient sur, effectivement, ces traductions qu'il assurait lors de la grève des travailleurs immigrés de Peñarroya en 72. Juste pour resituer Valentine et Alban, d'ailleurs. Donc, Peñarroya, ça se situe, c'est une usine de Gerland, hein, pour le oui. Repréciser. Mais en ce qui concerne le mouvement là, de 73, quand les grèves repartent, est-ce qu'on est localisé à nouveau sur Peñarroya et sur l'usine de Gerland, ou on est aussi sur d'autres bassins, d'autres secteurs, parce que sont évoquées aussi d'autres usines, je pense à Berliet par exemple, à Vénissieux. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça qui sont concernés par ce mouvement à partir du début au printemps 73?
La particularité en fait de ces grèves de la faim, et ça on l'a pas encore évoqué, mais c'est le cas pour plusieurs autres grèves de la faim qui se sont passées dans la région, que ce soit à Saint-Étienne, que ce soit à Valence. En fait, c'est des grèves qui n'ont pas été sur les lieux de travail, justement parce qu'il y avait l'idée de dire qu'on ne pouvait pas utiliser la grève comme moyen de pression, puisque ces personnes n'avaient pas de papier et donc n'étaient pas des travailleurs réguliers. Et l'idée de la grève de la faim, elle était aussi donc sur cette question de dire on n'a plus que sur notre corps sur lequel on peut en fait pousser les préfectures à obtenir des titres de séjour. Donc on s'est décalé par rapport à la grève de Peñarroya, qui était plutôt sur la question de l'ouvrier et des conditions de travail, à quelque chose de plus large, de plus sur la vie en fait des personnes qui vivent en France. Donc sur la question du logement, on l'a dit, sur la question de la régularisation, et ces grèves se sont en fait passées dans des églises. Ça a été le cas donc pour la plupart hein, de ces grèves de la faim. À Lyon, c'était à l'église de Saint-Pierre de Vèze. Encore une fois, c'était un réseau militant. Hein, le prêtre de l'église de Saint-Pierre de Vèze était lui-même militant au PSU et a participé, on le voit dans la bande dessinée, au comité de soutien. Mais je sais qu'à Valence ou à Saint-Étienne, il y avait aussi cette question en fait un petit peu de qu'on appelait les cathos de gauche, ou en tout cas, voilà, qui ont vraiment aussi un rôle à jouer dans ces grèves.
Oui, à Saint-Étienne, Alban, on avait réalisé une émission d'ailleurs là-dessus. Hein, c'est sur l'église dont j'ai perdu le nom, mais qui est sur le quartier de Tarentaise.
Saint-Edmond.
Voilà.
Le quartier de Saint-François plutôt.
De Saint-François. Ouais. Et oui, et les paroisses, en effet, sont mobilisées. On le voit dans l'ouvrage de Valentine, avec ces paroisses des villes environnantes qui sonnent le tocsin, et pour aussi témoigner de leur solidarité. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale, Alban et Valentine, avec précisément Colette Magny, une figure quand même aussi de la chanson de ces années 60-70 et 68 en particulier pour ce titre, où on va retrouver le titre La Pieuvre. On rappelle que Colette Magny s'est investie corps et âme aux côtés du mouvement ouvrier. Elle a été éditée au Chant du Monde, maison de disques fondée par le PCF. Elle était de toutes les mobilisations ouvrières. Elle chantait pour les grévistes, notamment de Peñarroya ou Rodia, la Rodia Seta. Et on retrouve ce titre La Pieuvre qui figure sur l'album Magny 68, paru donc en 1968, où elle dénonce les conditions de travail dans l'industrie du textile, particulièrement à l'usine de Rodia Seta, un titre qui fut aussi la bande-son du film Rodia 4x8, paru en 69, réalisé par un collectif de cinéastes militants. On écoute La Pieuvre de Colette Magny.
Le bain, c'est fini maintenant, nos ouvriers ont du temps. À 4h le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodia Veta. Mardi, mercredi, 4h, 12h. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci Pondroulinc, trust de la chimie, premier groupe financier français. C'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Un dimanche sur quatre toute l'année à la Rodia Veta. Merci Sonroulinc, trust de la chimie. T'as baptisé nos usines avec des noms de fusées, des noms de vins capiteux. Lyon, Vez, gorge de loup, belle étoile Saint-Fond, péage de Roussillon. Mais derrière les hauts murs de la Rodia Veta, dans des locaux fermés, éclairés au néon, la lumière la plus proche de celle du soleil, comme dit le patron. On travaille en feu continu, à plus de 30 degrés et 70% d'humidité. On devient tous nerveux, nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent à la Rodia Veta, à la Rodia Veta.
Voilà, Colette Magny. La Pieuvre, titre paru en 68, sur l'album Magny 68 précisément. On prononce Rodia Veta, en tout cas pour Colette Magny ici. Moi je dis Rodia Seta tel que cela s'écrit. Je rappelle que cet album, donc, c'est le titre sur lequel vous pouvez retrouver, cet album sur ce titre-là, pardon, sur cet album Magny 68, mais qu'il est aussi disponible sur cette très belle compilation qui est sortie aussi il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Parler d'années de la Terre, des voix de lutte 1969-1980. 1988, une très belle compilation qui regroupe précisément ces chants militants de cette période. Je rappelle que vous êtes dans l'émission du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, rendez-vous mensuel le troisième jeudi de chaque mois sur cette antenne. Une émission aujourd'hui consacrée à Corps en grève, une bande dessinée qui vient de paraître cette année, écrite par Valentine Bouc, qui est avec nous, invitée au bout du fil, dessinée par Amandine Wadrepuntos, avec Alban Graziotin pour le Grémos, également présent pour cette émission spéciale consacrée donc à cette BD qui relate cette grève de la fin du printemps 1973, où le bidonville de Fézin est menacé de fermeture et ces travailleurs tunisiens sans papier sont mobilisés. Et toute cette bande dessinée relate cette lutte finalement, et puis où Français et immigrés se sont battus ensemble.
Exactement. Peut-être pour revenir un petit peu justement, un peu plus précisément sur le contexte concret de ces grèves de la faim de travailleurs immigrés. Valentine, tout à l'heure tu posais la question, donc on va essayer de déclasser un petit peu tout ça. Donc on est dans l'après 1968, les travailleurs immigrés peuvent rentrer en France plus ou moins comme ils veulent, ils ont des contrats de travail, etc. Mais la crise arrivant, on sent aussi des crispations arriver très rapidement autour de ces questions d'immigrés et d'immigration. Donc il y a des circulaires. Donc la circulaire Marcellin, le 23 février 1972, qui est ministre de l'Intérieur, et la circulaire Fontané du 15 septembre 1972, qui est ministre du Travail, va subordonner la politique de recrutement des travailleurs étrangers à la situation de l'emploi en liant l'autorisation de séjourner en France à la détention d'un emploi. Donc la perte de l'emploi impliquant la perte de la carte de séjour. Ces circulaires mettent une pression inexplicable aux travailleurs immigrés qui sont généralement les plus mal lotis dans les industries et dans les milieux agricoles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de travailleurs immigrés qui vont travailler dans les champs l'été qui ont donc des contrats de travail plutôt courts. Donc ces deux circulaires sont de véritables épées de Damoclès sur leur tête, hein, puisque s'ils n'ont pas de contrat de travail, ils peuvent être renvoyés très vite chez eux. Donc en réaction à ces circulaires et avec tout le travail de militants qui est fait depuis les années 68 par des militants d'extrême gauche, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer à voir des grèves se dérouler à partir de l'année 1972, donc des grèves dans les usines, et comme tu le disais Valentine aussi, des grèves de la faim de ces travailleurs, qui ne sont plus ici dans la question purement du travail, mais dans les questions de conditions de vie, ils vivent dans des bidonvilles, dans des endroits très précaires généralement, et là, ils vont être amenés à prendre position. D'où l'intervention de ces trois Mohamed, comme tu dis, de ces militants pour venir motiver les jeunes ouvriers tunisiens. Je pourrais rappeler donc, là je vais m'inspirer d'un article de Michel Zancarini-Fournel, hein, « La question immigrée après 68 ». C'est un article qui était paru dans Plein Droit en 2002, un article de la revue du GISTI. Hein. Le GISTI, c'est donc... le groupe d'information et de soutien des immigrés, qui est créé justement en 1972. On peut retrouver l'article de Michel Zancarini-Fournel dans un travail qui est en ligne justement sur le site du GISTI, si des auditeurs sont intéressés. Il s'appelle « Mémoire de lutte de l'immigration en France », donc il date de 2014, et c'est une compilation de tout un tas d'articles qui sont parus dans Plein Droit, qui font le point sur les luttes des travailleurs immigrés, des grèves de la faim, etc. Et donc c'est un des outils indispensables pour comprendre mieux cette période. Donc comme le rappelle Michel Zancarini-Fournel, les conditions de vie des travailleurs immigrés sont durcies par les circulaires Marcellin-Fontané qui vont être appliquées à partir de 1972. Hein. Et on va donc voir apparaître très tôt des résistances aux premières mesures d'expulsion avec l'application de la circulaire. Et ces résistances vont s'amplifier durant toute l'année 1973. Année 1973, qu'il faut aussi le rappeler, va être une année charnière à plusieurs... de plusieurs manières, puisque c'est l'année de la crise économique qui recommence, la première grande crise pétrolière qui va commencer à faire des ravages en Europe. Et c'est aussi, en France, une année un petit peu terrible, puisque c'est une montée du racisme comme elle n'avait pas été vue depuis plusieurs années dans notre pays, avec un certain nombre, justement, d'actes racistes à l'égard de travailleurs et qui font suite aussi à ces grèves de la faim, à cette médiatisation de travailleurs immigrés. Donc on peut penser que dans les milieux d'extrême droite, certains n'ont pas été très satisfaits de cette publicité qui était faite aux travailleurs immigrés à travers ces comités de soutien, à travers toutes ces grèves qui posaient la question de l'accès à la France, en fait, tout simplement, aux travailleurs immigrés sans papier. Et donc, cette année 1973, c'est un peu cette année charnière où le racisme refait une entrée fracassante. Hein. Il y a des articles à lire sur cette année 1973 qui sont très importants. Donc, on est vraiment dans une situation très tendue et l'histoire que, Valentine, tu nous racontes encore en grève s'inscrit complètement dans cette tendance-là. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu as construit ton récit, ton scénario à partir de... Donc tu as suivi une voie plutôt chronologique, mais est-ce que tu pourrais être un peu plus précise pour nous expliquer comment tu as construit ce scénario ?
Oui, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est... bon, évidemment, ça a été tout un travail de réflexion hein, pour arriver à ces conclusions, mais... je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une importance de la chronologie, de pas faire une histoire où on revient, enfin qu'on part d'un point, on revient dans le passé, on revient dans le présent, enfin voilà. Parce qu'en fait, j'avais vraiment envie que les personnes qui lisent la bande dessinée se plongent dans qu'est-ce que ça veut dire que de faire une vingtaine de jours de grève et d'où on part et d'où on arrive. Et donc, du coup, la question de la chronologie et de suivre, en fait, une chronologie, hein, on le voit, les jours s'égrènent, le nombre de troisième, quatrième, cinquième, sixième jour de grève, voilà, sont indiqués pour plonger les lecteurs et les lectrices dans une forme d'attente et de longueur aussi pour montrer à quel point, lourd aussi de tenir une grève de la faim et avec toutes les tensions et toutes les interrogations et les doutes qui surviennent au fur et à mesure de la lutte. Donc ça, c'est pour l'aspect chronologique. Après, moi, j'avais quand même envie de donner trois temps dans la lutte. C'est pour ça que j'ai en gros chapitré l'histoire en trois parties. La première partie, c'est ce qui se passe avant la grève. Parce que pour moi, il y avait tout ce contexte-là qui était important de spécifier. Et puis après, évidemment, il y a tout la deuxième partie. Donc voilà, comment la grève se passe, comment s'organise à la fois le comité de soutien, les réunions, ce qui se passe à l'extérieur dans les manifestations, ce qui se passe à l'intérieur dans la cure, du coup, à l'église Saint-Pierre de Vèze, avec les grévistes bah, qui s'ennuient aussi un peu, qui doutent. Expérimente le fait de subir sur son corps quand même une grosse une pression finalement autre mais une pression sur la question de la faim et la dernière partie que je dévoilerai pas trop parce que du coup c'est un petit peu la fin de l'histoire mais c'est la résolution et comment en fait on se sort de cette situation qui était très difficile et la préfecture ne voulait pas entendre raison aux grévistes.
Exactement. Et d'ailleurs, justement, cette chronologie, elle est vraiment bien faite parce qu'on peut vivre la grève au jour le jour, quasiment. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on se déplace dans les différents lieux. Donc, ça nous fait faire aussi un petit parcours militant dans le Lyon, dans la région lyonnaise des années 70. On voit des endroits symboliques. Et donc, à l'arrivée, ce dialogue entre le temps et l'espace est très bien fait, je trouve, à l'intérieur de ton ouvrage. Et c'est vrai que il est difficile dans une grève de la faim de ce type de laisser de côté la chronologie. Hein. Je pense que là, c'était vraiment très intéressant de la garder, de mettre en avant cette lenteur qu'il pouvait y avoir. Parce qu'il y a aussi de l'ennui, je pense, dans ces moments de grève pour les grévistes. Est-ce que tu sais si certains ont douté, par exemple, se sont vraiment posé des questions de savoir si ça valait le coup, si ça valait la peine. Et par ailleurs, est-ce que tu sais s'il y avait des contacts avec les familles en Tunisie? Est-ce qu'ils étaient au courant? Parce que est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus, peut-être?
Alors sur la partie du doute, c'est évident, il y a eu énormément de doutes tout au long de la grève de la faim pour les grévistes, qui en fait se rendaient compte que plus le temps passait, plus en fait les chances d'obtenir une régularisation s'éloignaient. Plusieurs ont dit, mais en fait moi j'ai pas envie de mourir de faim pour des papiers que j'aurais peut-être jamais. Donc il y a eu aussi évidemment entre ceux qui finalement se démotivaient et les plus motivés qui disaient mais si vous arrêtez on va tous arrêter donc il faut être tous solidaires donc il y avait cette toute cette idée de dire que c'est le groupe qui gagne et que et donc voilà, il y a eu quand même évidemment hein, des tensions au sein des grévistes sur l'utilité et la fin plus ou moins tragique pour les grévistes. Deux grévistes ont été quand même hospitalisés pendant la grève parce qu'ils ont en fait subi physiologiquement le corps n'a pas suivi pour deux des grévistes parce que c'était vraiment trop difficile. Le lien avec les familles, il y a un petit passage dans la bande dessinée où un gréviste explique qu'il n'a pas parlé à sa famille depuis et à ses sœurs depuis 2 ans. Ce que je voulais dire par là, c'est, à travers ce dialogue, c'était aussi expliquer qu'il n'y avait pas les moyens aujourd'hui de communication comme le téléphone ou les mails, évidemment. Donc il y avait aussi cette sensation, je pense, d'éloignement pour en tout cas beaucoup des travailleurs qui n'avaient donc pas du tout accès à un téléphone ou à une possibilité de rentrer en contact avec leur famille. Par contre, je sais, parce qu'on m'a raconté, qu'une partie de la famille de certains des grévistes était sur place, que ce soit un cousin, une sœur, une mère. Il y avait quand même certains des travailleurs qui avaient quand même un petit bout de famille en France, à Lyon. Et du coup, il y avait beaucoup de visites qui étaient organisées. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais la grève, elle a été vraiment organisée de manière très ouverte, tous les jours, tout le temps, à n'importe quel moment, plus ou moins à n'importe quel moment de la journée, mais en tout cas, il y avait vraiment un accès ouvert à toutes les personnes qui voulaient rencontrer les grévistes, les soutenir, leur donner du courage. Donc c'était un lieu de passage aussi hein, de militants, aussi de personnes du quartier hein, de Vez qui venaient visiter les grévistes. Et donc je sais que certains des grévistes recevaient leur famille ou leurs amis ou certains de leurs amis dans la cure.
Il y avait combien de grévistes de manière effective, Valentine, durant cette grève de la faim?
Oui, alors il y en a eu de plus en plus. On est parti avec une dizaine de grévistes qui ont été rejoints la semaine d'après par 10 autres parce qu'il y a eu un effet en fait de médiatisation qui fait que les travailleurs du bidonville de Fézin hein, dont l'histoire démarre, il y en a une dizaine en fait sur les 200 travailleurs vivant dans le bidonville, il y en a finalement qu'une dizaine qui entame cette grève de la faim, mais qui sont rejoints par une dizaine d'autres grévistes dès la semaine du début mars pour rejoindre le mouvement en tant que finalement travailleurs aussi immigrés sans papier, mais d'autres quartiers de Villeurbanne, de Vez, enfin d'autres quartiers lyonnais sur ces questions de sans-papiers. Donc au final, en tout, ils ont été 27 travailleurs en grève sur cette lutte.
Cette décision a été prise le 17 février. La grève donc a duré plusieurs semaines, plusieurs jours, au printemps 73. Alban parlait du doute. Le doute s'est installé finalement aussi un petit peu de toutes parts. Et la question a pu se poser aussi au niveau des grévistes français solidaires qui ont pu aussi parfois, être un peu trop entreprenants et puis noyauter finalement un petit peu le mouvement. Comment ça s'est passé justement aussi cette articulation, ce travail de solidaire entre ces travailleurs immigrés et des formes de solidarité aussi qui ont pu se manifester par d'autres travailleurs, d'autres personnes issues de l'immigration et les Français qui également rejoignaient le mouvement.
Oui, en effet, il y a un personnage qui apparaît dans la bande dessinée à partir de la deuxième partie, hein, de ce que j'ai appelé un peu le deuxième acte et on rentre en fait avec ce personnage donc, de Marc qui est donc un jeune homme d'une vingtaine d'années qui va rentrer dans la cure parce qu'il avait entendu de ses réseaux militants l'existence de cette grève. Et en fait l'idée c'est que aussi de ce que j'avais envie de montrer c'était que comment est-ce qu'on arrive finalement à s'engager, comment est-ce qu'on arrive à se retrouver dans ce type d'engagement quand on n'est pas directement un travailleur immigré sans papier. Et du coup ce personnage de Marc hein, que j'ai retrouvé pour le coup avec par un site qui s'appelle Les Copains d'avant. Enfin, c'est pour expliquer que ça a été, voilà, je l'ai cherché pour le coup, lui, parce qu'il était plus à Lyon, il était à Paris. Donc c'était vraiment une super expérience de pouvoir retrouver cette personne qui, en finale, m'a permis d'amener une autre touche sur cette grève, c'est-à-dire la vision d'un jeune homme qui décide de s'engager totalement, comme un engagement total, auprès des travailleurs immigrés, en participant à la grève de la faim, lui aussi, de manière solidaire, et tout ce que ça comporte comme questionnement, comme doute aussi sur les modes d'action. C'est-à-dire que c'est ce personnage qui m'a aussi fait comprendre l'interrogation sur le fait d'être très passif en étant gréviste. Et du coup, c'est cette question-là, j'ai vraiment voulu aussi l'aborder pour montrer que on doute aussi à l'intérieur d'un moyen d'action, d'une grève, et qui est où. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a traversé aussi les mouvements immigrés des années 73, notamment avec le MTA aussi, Mouvement du Travailleur Arabe, qui a aussi questionné cette façon de militer, c'est-à-dire où on met les premiers concernés, sont-ils passifs et en retrait, ou sont-ils les acteurs de leur lutte.
Exactement. Et d'ailleurs, ça fait écho avec ce que tu nous disais en début d'émission sur les questionnements qu'on peut se poser aujourd'hui, l'actualité de tout cela. Et ces dernières années, on sait qu'il y a eu tout un tas de problématiques autour de travailleurs ou d'immigrés tout simplement clandestins, notamment sur Saint-Étienne, hein, des problèmes d'hébergement, des problèmes de solidarité, donc des comités qui sont mis en place sur Saint-Étienne et dans tout un tas d'autres villes en France aussi sur ces questions-là. Et c'est vrai que ton ouvrage fait un peu écho et met en parallèle un petit peu deux périodes, des modes d'action. Est-ce que c'est encore aujourd'hui valable? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que, voilà, comment on doute, comment on peut s'engager dans ces mouvements? Et c'est là, je trouve que ton ouvrage fait bien encore les liens, comme tu le disais en début d'émission, avec l'actualité, hein, même si ça parle de quelque chose d'il y a 40 ans. Hein, c'est des questions qui sont encore chaudes, en tout cas pour certaines personnes qui vivent ces situations-là. Pour revenir sur un aspect par rapport au graphisme de la BD avec Amandine, est-ce que vous avez beaucoup échangé là-dessus? Tu l'as laissé libre de choisir son style graphique? Tu lui as présenté des documents photographiques de l'époque pour qu'elle puisse s'inspirer des visages, des personnages, etc.
Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai donc rencontré Amandine, comme je l'avais dit, hein, donc dans une association d'auteurs de bande dessinée à Lyon. Et en fait, on a assez vite échangé sur le sujet. C'est elle qui a été très intéressée par le sujet de la bande dessinée. Et après, on est parti en fait sur elle est partie sur des croquis en fait à partir de quelques images que je lui avais transmises du bidonville, par exemple, de Faisan, les quelques images que j'avais du bidonville de Faisan, qui se trouvent d'ailleurs hein, dans le cahier documentaire à la fin de la bande dessinée. Et j'ai été vraiment super agréablement surpris par ce graphisme, donc c'est à l'aquarelle, hein, du coup c'est en couleur directe à l'aquarelle, et j'ai été vraiment, je me suis dit mais c'est vraiment ça en fait que je veux transcrire comme impression. Et elle, son rapport à ce dessin et ce retour à un dessin un petit peu ce qu'elle appelle sur le vif, c'est issu de carnets de voyage qu'elle a réalisé elle au Burkina Faso quand elle est partie vivre pendant 2 ans là-bas, et alors qu'elle venait d'une formation très classique, hein, sur un dessin beaucoup plus classique. Et ça lui a beaucoup plu de pouvoir être dans quelque chose d'assez lâché. Enfin, l'idée de l'aquarelle, c'est aussi qu'on peut faire des dégradés, des teintes plus ou moins vives. Il n'y a pas spécialement de cases. Hein, les cases ne sont pas dessinées dans la bande dessinée. Ça, c'était aussi quelque chose que j'imaginais, mais qui a vraiment bien collé avec sa pratique et cette technique d'aquarelle qu'utilise Amandine.
D'accord, très bien, parce que justement, pour faire écho à ce que tu viens de dire, il y a un petit carnet à la fin de ta BD, donc il y a un petit dossier documentaire. C'est quelque chose qui fait écho à ce qu'on peut trouver dans d'autres BD actuellement en France sur le monde ouvrier. Et je voulais savoir si justement tu t'étais intéressé un petit peu, tu avais lu d'autres auteurs de BD qui traitent du monde ouvrier. Donc il y a Davodo, bien sûr, Levaré, mais il y a aussi Baru qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup dessiné sur les milieux ouvriers en Lorraine. Donc voilà, est-ce que tu t'es inspiré un petit peu aussi sur la construction du récit, sur le graphisme? Est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à d'autres travaux?
Oui, oui, bien sûr. En fait, quand j'ai avant, évidemment, de me lancer dans l'écriture réellement de l'histoire, je suis allée un petit peu regarder dans les BD documentaires, parce que du coup, c'était pour le coup vraiment cette inspiration-là, hein, qui j'avais envie de voir comment est-ce qu'on construisait une BD documentaire, notamment sur ce genre de sujet. Moi, je citerai en fait comme exemple, hein, de mes lectures, Un homme est mort de Davodo, qui est donc qui retrace des manifestations ouvrières dans la reconstruction de Brest des années 50, avec notamment un cahier documentaire à la fin qui permet un petit peu de retracer l'ambiance et de mettre des visages et des photos sur cette histoire. Et puis je vais aussi citer Lip. Donc de Galandon et de Vidal, qui est donc l'histoire en fait qui retrace l'histoire donc de Lip, des ouvriers Lip, pour en gros comment dire, comment est-ce que on peut traduire en bande dessinée une mobilisation assez aussi un petit peu en huis clos, hein, comme la grève de la faim, à l'intérieur des usines, puisque Lip, le principe c'était donc de se réapproprier l'outil de travail et donc de faire une mobilisation et une grève, une lutte ensemble à l'intérieur de l'usine. Donc c'est les deux exemples que je pourrais donner juste pour essayer de travailler sur comment est-ce qu'on peut rendre en bande dessinée, quelles images, quels procédés narratifs on peut mettre en place pour traduire ce genre de lutte.
Dans tous les cas, moi, je trouve que tu as très bien réussi ton pari, hein, parce qu'on vit vraiment la grève de l'intérieur. Ce cahier documentaire permet de voir des tracts, on voit les photographies des personnages d'hier et d'aujourd'hui, donc c'est toujours intéressant aussi de se passer présent un petit peu à l'intérieur. Et au final, ben voilà, on va te féliciter pour ton travail, parce que l'émission va bientôt s'achever aussi.
Presque, on peut quand même encore rajouter deux, trois mots. Simplement aussi revenir sur, au-delà de la BD, on refera une parenthèse peut-être sur quelques références qu'on avait aussi notées ici avec Alban, mais simplement revenir sur aussi cette lutte et ce sur quoi elle a débouché, sans dénouer l'histoire, Valentine. Mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que ces luttes de 72-73, Valentine et Alban d'ailleurs, hein, c'est que finalement, à l'issue, à l'été ou juin 73, le gouvernement décide de suspendre temporairement ces circulaires Marcelin-Fontanet. Et ce sont des milliers de régularisations qui ont lieu durant cet été 73.
Oui, oui. C'est vraiment quelque chose qui, ça aussi, c'est un petit peu l'idée du cahier documentaire, hein, de la fin de la bande dessinée, pour essayer d'ouvrir un petit peu et de montrer, bah là, on a parlé d'un exemple local, mais en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large de grève de la faim, mais Alban l'a très bien expliqué, hein, quand même une ébullition sur tout un tas de questions et de revendications. Et ça s'inscrit, je pense, vraiment dans une année, on va dire, un peu exceptionnelle, qui a fait reculer le gouvernement sur notamment les deux circulaires Marcelin-Fontanet, qui étaient vraiment à l'origine de ces mobilisations et beaucoup beaucoup de régularisations. Voilà, donc c'est aussi un exemple national, hein, évidemment, de luttes qui se sont déroulées sur cette période,
sachant par contre que très vite, avec notamment l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence en 1974, tout un tas de circulaires vont réapparaître très rapidement, avec la crise économique en toile de fond, qui va être aussi à la fois prétexte pour stigmatiser, proposer aux travailleurs immigrés de rentrer chez eux. Et c'est vrai que cette petite bouée d'air frais, on va dire, en 1973, avec ces luttes victorieuses plus ou moins ici et là, vont aussi retomber à la fin des années 70 sous les effets de la crise, qu'on pourra aussi mettre en parallèle avec la montée du Front National à la fin des années 70. Donc une histoire qui est très serrée, mais qui se retrouve, qui se tient bien finalement, je trouve, quand même.
Oui, c'est vrai qu'en juillet 74, il y a ce nouveau gouvernement Valéry Giscard d'Estaing dont on parle beaucoup actuellement, et sur certains pendants de son gouvernement, et Valentine le souligne dans la partie documentaire de sa bande dessinée, c'est la suspension officielle de l'immigration de travail. On rappelle que c'est lui aussi qui a instauré le regroupement familial et sur ces questions, notamment dans la foulée, les années qui vont suivre.
Pour l'instant, je n'ai plus rien d'autre à rajouter, je pense. Valentine, en tout cas, nous, on te remercie. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour les auditeurs ou
Non, voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être juste de replacer donc, toutes ces discussions autour de la bande dessinée étaient donc dans le cadre de la Biennale Trace. Et je pense que vraiment cette idée de, notamment, on a pu avant le deuxième confinement se rendre à Saint-Étienne le 17 octobre dernier avec Amandine. On avait notamment, on était en collaboration hein, sur cette journée, notamment avec Fatima Wassak. Voilà, l'idée c'est de dire que en fait on s'inscrit dans quelque chose qui est pour moi quelque chose de beaucoup plus large et Fatima Wassak parlait vraiment de cette idée de construire une mémoire militante pour les descendants de l'immigration. Je pense que c'était aussi ça l'idée de ce travail et la Biennale Trace est vraiment pour moi vraiment au cœur de ces enjeux, c'est-à-dire faire et du passé et du présent une forme de continuité et dire que si on ne parle pas, si on oublie en fait cette mémoire militante, et ben voilà, on donne pas aux gens un certain espoir ou au moins se dire qu'il y a eu des luttes, il y a eu des choses victorieuses, et notamment sur la question des travailleurs immigrés qui sont souvent vus comme des personnes assez finalement qui se sont assez il y a eu beaucoup cette histoire de l'intégration et de qui est évidemment remis là sur la table. L'idée de dire c'est aussi que ben il y a eu déjà des gens qui ont lutté dès le départ et qui étaient déjà dans une forme de lutte et d'intégrer quelque chose de beaucoup plus large sur les questions qui traversaient les années 68. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est aussi l'inscription pour moi dans une réflexion assez large.
Merci Valentine. Pour terminer peut-être, je ferai écho justement à ce que tu viens de dire. Le nouveau site du Grémos va bientôt être mis en ligne certainement, donc on fera un petit point sur cette émission radio. On mettra des coordonnées pour la BD où on peut la trouver, donc vous pouvez la trouver à Saint-Étienne à la librairie l'une et l'autre par exemple. On mettra aussi un petit peu de bibliographie, donc je voulais la citer comme ça, Histoire politique des immigrations postcoloniales, France 1920-2008 aux éditions Amsterdam. C'était un ouvrage collectif paru en 2008 dirigé par Ahmed Boubaker et Abdelali Hajat, qui fait le point justement sur l'implication des travailleurs immigrés et des militants plus globalement en France dans ces années charnières, d'autant plus que nous sommes encore aujourd'hui dans des questions brûlantes à ce niveau-là. Donc oui, montrer que hier encore, les gens avaient une capacité d'action, comme on le dit, une agency, et ces travailleurs immigrés dans les années 73, comme tu le montres bien dans ta BD, avaient cette capacité d'action en agissant pour une fois là sur leur propre corps et pas simplement en occupant leur lieu de travail. Donc voilà, tout un tas de références bibliographiques qu'on tâchera de vous mettre sur le site du Grémos. Pour terminer sur le Grémos, je rappellerai qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir dernièrement par les éditions de la Diana à Montbrison, La Loire en 1919, donc un livre sur la sortie de guerre dans le bassin stéphanois et dans la Loire en général et dans le bassin stéphanois en particulier, avec plusieurs contributions des membres du Grémos, donc un livre qu'on tâchera de vous présenter ultérieurement. Et on espère aussi très bientôt vous retrouver sur notre site internet tout neuf et tout joli, ce qui va permettre certainement de remettre en ligne toutes les émissions podcastées depuis les origines du Grémos.
Et puis je voudrais aussi préciser auprès d'Alban du Grémos et de Valentine que cette émission sera précisément réalisée dans le cadre de la Biennale Trace, mise en ligne sur le site dédié trace-migration.org avec la web radio qui sévit depuis plusieurs semaines et qui propose un ensemble de programmes et de contenus radiophoniques donc écoutables, podcastables sur ce site dédié. Donc on pourra la retrouver très prochainement sur le site en ligne de Trace. Et puis simplement rappelez bien entendu Corps en grève, cette bande dessinée sortie aux éditions Stankis, toujours donc disponible. Et puis d'autres, tu l'as cité Valentine et Alban, nous avions fait également ce choix, cette fameuse bande dessinée Un homme est mort de Tienne Davodeau et Chris, qui est parue chez Futuropolis, tirée d'un film disparu de René Vautier sur la mort d'un ouvrier, Édouard Mazet, lors de manifs et grèves de Brest au printemps 1950, qui a aussi fait l'objet, il y a 3 ans de ça, d'un long métrage d'animation réalisé par Olivier Cossu, que je recommande chaudement. Il y a bien sûr d'autres BD, L'Élipe et d'autres encore, je pense, pourquoi pas aussi au Cri du Peuple de Tardy Vautrin. On approche de l'année anniversaire en 2021 de la commune ou des communes, c'est aussi bien de le reciter. Et puis surtout, une autre BD ouvrière qui vient tout juste de paraître, qui s'appelle Le Pas de la Manu, ça se passe à Saint-Étienne, où se fabriquaient donc les armes, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, bien entendu. C'est Baptiste Desrailles qui vient de réaliser cette bande dessinée, dont on reparlera peut-être d'ailleurs sur cette antenne, qui revient donc sur La Manu, une BD qui vient de paraître aux Actes Sud édition de l'an 2, si je ne me trompe. C'est la toute fin de cette émission Grémos. Merci Alban, merci Valentine.
Merci.
Et on te souhaite bonne continuation, bien sûr.
Merci.
À très bientôt, on va terminer en musique avec Douce aux France de Carte de Séjour. C'est plutôt bienvenu en guise de générique de fin. À très bientôt.
À bientôt.
Des souvenirs perdus, il revient à ma mémoire. Des souvenirs perdus, il revient à ma mémoire. Des souvenirs perdus, je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. Gardez dans mon cœur mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. La joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je la préfère, mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon dans le